Radio Starbeck.
Morning edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Elle est presque héroïque, cette campagne que font nos candidats. La peur existera toujours, mais si nous ne surmontons pas cette peur, nous allons gâcher tout ce qui est en train de s'accomplir.
La campagne héroïque, c'est celle des Mexicains et des candidats mexicains aux élections présidentielles et municipales de ce dimanche. Les cartels ont tué des candidats, des dizaines de candidats. Nous sommes dans la province du Guerrero. Ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Virginie Pironon au Malawi ce soir pour défendre les albinos dans le grand bazar de Téhéran qui est en grève, figurez-vous. Et en Asgardia, c'est où l'Asgardia? Eh bien c'est dans l'espace. 18h50, la minute écolo de Sandy Dauphin. Faut-il brûler l'huile de palme? L'huile de palme écolo classifiée. Est-ce que ça existe vraiment? On verra ça ensemble. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Elle est finie alors la guerre en Syrie, mais pas du tout. Une énorme offensive est en cours à Deraa, la ville symbole du début de la révolution. 45 000 civils ont déjà fui. Et qui s'en soucie? Mais avant, c'est Leïla Slimani qui est avec nous pour parler d'Amérique. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Est. Un jour dans le monde.
Faut reconnaître, on va pas se mentir, c'est un peu notre magazine préféré dans Un jour dans le monde, America, qui raconte l'Amérique de Trump au jour le jour à travers le regard des écrivains. C'est grâce à cela, Leïla Slimani, que vous êtes avec nous ce soir. On est ravis. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est notamment parce que Chanson douce a été traduit, que vous avez fait une tournée des universités américaines, et de cette tournée sort un texte que vous laissez ici, vos impressions d'Amérique publiées donc dans America, et surtout de la manière dont le mouvement MeToo perdure et existe sur les campus américains. Aujourd'hui, on va venir à ce que vous avez lu et entendu. Moi, je suis un peu curieuse d'abord. Est-ce que c'était un pays qui vous attirait, les États-Unis, de toute façon? Est-ce qu'il vous a fasciné, façonné? Est-ce qu'il fait partie de vos références à la base ou pas?
Oui, c'est un pays qui a été, bien sûr, qui est très important dans mon imaginaire. D'abord à travers le cinéma, je pense. Vous savez, c'est ce genre de pays où quand on arrive pour la première fois, on a cette impression étrange d'avoir déjà vécu, là, d'avoir déjà vu ces rues, d'avoir déjà vu ces taxis. Donc j'aime bien cette espèce de décalage étrange entre l'inconnu et le connu. Donc c'est un pays qui m'a toujours fascinée par sa littérature. Et puis même la politique américaine me fascine. C'est un pays qui est capable à la fois du pire et du meilleur. Et donc il y a là-dedans quelque chose de presque, et là on le vit encore plus avec Trump, quelque chose de presque shakespearien. C'est toujours dans l'extrême, et ça c'est très attirant.
Mais du coup, alors c'est toujours très attirant justement, y compris cette Amérique-là est toujours très attirante. On n'a pas envie, au contraire, de lui tourner le dos en ce moment. En fait.
D'autant plus, je crois que c'est pour ça que l'Amérique est une excellente idée, une idée absolument brillante, c'est-à-dire répondre par la complexité. Ça aurait été trop facile de penser que Trump n'est qu'un imbécile, que tout ça n'est qu'une farce, que ça n'est qu'une parenthèse.
C'est peut-être ça les erreurs qu'on a fait au début d'ailleurs,
voilà.
Pendant la campagne.
Et je crois que la grande force d'América, la grande force d'Éric Fotorino et de François Bunel, c'est d'avoir compris qu'à ça, il faut répondre au contraire par encore plus de complexité, qu'il faut essayer d'aller voir exactement ce qui se passe derrière. Et c'est un pays qui est insaisissable. Moi, j'en suis pas du tout partie avec le sentiment d'avoir répondu à la question que justement Éric Fotorino et François Bunel m'avaient posé. J'ai répondu à une partie de la question, mais c'est un pays qui est insaisissable. Et la phrase que les gens m'ont le plus répétée, c'est « Vous savez, ici, ce n'est pas l'Amérique. » Et à la fin de mon voyage, je me suis dit « Mais au fond, c'est où l'Amérique ?» Parce que si elle n'est pas
50,
ici, il y en a des dizaines, des milliers d'Amériques.
Alors, je voudrais qu'on parle d'une coïncidence, parce que vous la soulevez dans votre texte, mais François Bunel le fait aussi dans son introduction. La coïncidence, c'est au fond, est-ce que l'affaire Weinstein explose parce que Trump est là? Est-ce que c'est finalement l'atmosphère trumpiste et sexiste qui fait exploser l'affaire Weinstein? Est-ce que tout ça est vraiment un hasard en fait de calendrier?
Moi, j'ai quand même le sentiment que finalement l'affaire Weinstein, comme ensuite MeToo, n'est pas le début d'un phénomène, n'est pas l'explosion de quelque chose dont on va s'en suivre plein de conséquences. C'est plutôt la confirmation d'un changement qui a lieu depuis longtemps au sein de la société américaine, notamment c'est-à-dire la massification du travail des femmes, l'accès des femmes à l'éducation, l'accès des femmes à des postes de pouvoir, et puis la crise de 2008, qui est une crise qui va être une grande crise masculine, puisque c'est une crise qui touche l'immobilier et la finance, donc majoritairement les hommes, et qui va donner un espace aux femmes, un espace dans le monde du travail, mais sans reconnaissance, sans que pour autant le harcèlement sexuel ne disparaisse ou ne s'amoindrisse. Et donc finalement, pour moi, ces affaires-là, c'est l'explosion d'une sorte de ras-le-bol. Ce sont les femmes qui considèrent qu'à un moment, ça n'est plus possible, que les règles d'avant ne sont plus applicables, simplement parce que le monde a changé.
Mais est-ce qu'on peut, alors pas refaire l'histoire, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce ça n'aurait pas explosé de la même manière si Trump n'avait pas gagné ces élections-là, en fait. Est-ce que l'un accompagne l'autre, au fond ?
Ça n'aurait pas explosé de la même manière, et je pense qu'en fait, Weinstein et Trump sont un peu les deux faces d'un même personnage ou d'un même phénomène. C'est finalement cette espèce de virilité abusive, blanche, parce qu'il y a aussi la question raciale est toujours très importante aux États-Unis, dans un monde qui est le monde du show business, le monde de l'image, où les femmes sont aussi souvent réduites à l'état d'objet. Donc effectivement, ils sont tous les deux révélateurs en réalité de ce dont on ne veut plus, de ce dont le mouvement MeToo ne veut plus.
C'est Tobias Wolff que vous citez dans votre texte qui dit que Trump et Weinstein, tous les deux en fait, sont finalement deux caricatures à la fois de capitalisme et de pouvoir, de quelque chose qui est peut-être en train de se passer aujourd'hui en fait, et aussi de cette crise de virilité en fait qui touche l'Amérique aujourd'hui.
Oui, exactement. Moi, je pense qu'on a un peu tort de ne regarder que la révolution féministe et de ne pas regarder ce qui se passe en fait pour les hommes. Je crois que le grand phénomène, c'est ce qui se passe pour les hommes blancs, hétérosexuels, de 40-50 ans. Aujourd'hui, aux États-Unis, ces hommes-là ont le sentiment d'avoir tout perdu. Ces hommes ont le sentiment que les lobbies féministes, homosexuels, noirs, latinos, peuvent tout leur prendre, que quand eux perdent un travail, quand eux sont dans une situation difficile, ils n'ont pas l'aide et les solidarités dont les autres bénéficient. Et cette aigreur, cette amertume, elle est vraiment très, très... moi, je l'ai beaucoup sentie, très perceptible, et puis elle est dangereuse. J'en parle à la fin du livre, il y a quand même des soubresauts de haine à l'égard des minorités ou à l'égard des femmes. Et Trump, d'une certaine façon, il est l'incarnation de ça. On n'a pas tout perdu. On est encore capable non seulement d'avoir le pouvoir, mais de dire qu'on attrape les femmes par l'entrejambe, etc.
Et dont certaines femmes, d'ailleurs, disent à Trump, tu peux le faire aussi, parce qu'il y a quand même évidemment encore aux États-Unis comme ailleurs, mais aux États-Unis, ça prend une forme très particulière de résistance face à ça, y compris chez les femmes d'ailleurs.
Oui, mais parce que je pense que si ce monde, on ne sait pas quel est le monde qui va advenir après ça, et que c'est la peur que le monde qu'on a connu, que les règles avec lesquelles on a toujours vécu disparaissent, et que cette Amérique blanche, dont on dit nous en France qu'elle est puritaine, mais dont moi je dirais plutôt qu'elle est assez hypocrite, qu'elle est un peu bigote, etc., cette Amérique-là, elle sent que son espace vital est en train de se réduire énormément. Mais je crois qu'on pourrait faire des comparaisons même avec l'Europe, avec ces gens qui ont l'impression qu'une certaine France a disparu, qu'une certaine Angleterre a disparu. Ça a peut-être disparu, mais voilà, autre chose est advenue et il y a cette difficulté à embrasser ce qui advient.
Et alors finalement, peut-être d'ailleurs avec les mêmes conséquences, on s'éloigne un peu des campus américains, mais les histoires de migrants, par exemple, se retrouvent à la fois chez nous et chez eux, probablement aussi pour les mêmes raisons, Leïla Slimani.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire on a encore une fois peur que notre identité soit mise à mal et qu'advienne quelque chose de nouveau. Mais moi, ça me fait toujours... Enfin, quand les Américains me disaient ça, une certaine Amérique est en train de disparaître. Ça me fait d'ailleurs la même impression avec la France. Je dis, mais l'Amérique qui disparaît, vous ne vous rendez pas compte. C'est aussi l'Amérique de la ségrégation raciale. C'est une Amérique misogyne. Voilà, ça n'était pas mieux avant. Donc comment vous pouvez regretter un modèle qui a été un modèle tellement violent à l'encontre de beaucoup de minorités, ou même pas de minorités, parce que les femmes ne sont pas une minorité aux États-Unis ni nulle part.
Alors, oui, 50% voilà, d'ailleurs. Quand même. Le mouvement est passé, il est en route en ce moment, il tourne toujours sur les campus. Vous racontez qu'il y a notamment, alors moi ça m'a scotché honnêtement parce que franchement je l'ignorais, qu'il y a une sorte de charte sur le consentement qui existe dans plus d'un millier d'universités, ça me paraît colossal. On a l'impression que on arrive, alors c'est très américain finalement, à une sorte de codification terrible de la sexualité après cette histoire de MeToo qui finalement revient à apporter de l'eau au moulin des gens qui disent ah bah oui mais alors voilà, les rapports hommes-femmes aujourd'hui vont être complètement différents.
Mais alors les campus, c'est un univers tout à fait particulier. La question de la sexualité sur les campus, elle est très très importante aux États-Unis et très brûlante depuis les années 70. Il faut imaginer que pour les Américains, envoyer son enfant à l'université, c'est un immense événement. On économise pendant des années pour envoyer on prend des crédits pour envoyer son enfant dans un lieu qu'on imagine protégé, qui va lui permettre une ascension sociale. Et beaucoup de parents se sont rendus compte dans les années 80-90 qu'ils envoyaient leurs enfants dans des jungles où ils pouvaient finir complètement sous, où des jeunes filles se faisaient violer sans même se souvenir du visage de leur agresseur. Et donc certaines universités, dont les grandes universités de l'Ivy League, Harvard, etc., se sont retrouvées avec beaucoup de procès, avec des problèmes de réputation. Et la réponse à ça, ça a été effectivement une sorte de judiciarisation de la relation sexuelle. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il faut dire oui, tu peux m'embrasser, oui, tu peux me toucher l'épaule, oui. Et donc aujourd'hui, il y a même des applications sur le téléphone qui permettent d'enregistrer
tout ça. Qui permet d'enregistrer avant un rapport sexuel les consentements oraux des partenaires qui sont ensuite stockés sur un serveur sécurisé auquel il est possible d'accéder en cas d'enquête judiciaire. C'est un peu tu l'amour, Leïla Slimani.
Si ouais, et d'ailleurs, ça je ne l'ai pas raconté dans l'article, mais il y a, sur cette judiciarisation des relations sexuelles, il y a l'inverse aussi. Quand j'étais à Los Angeles, on m'a raconté que par exemple à Las Vegas, aujourd'hui il y a un très très grand problème. Beaucoup de touristes européens vont à Las Vegas pour faire la fête. Ils rencontrent des jeunes femmes dans des soirées. Les jeunes femmes les emmènent dans un coin reculé, les griffent. Et une fois qu'elles ont l'ADN sous les ongles, appellent la police et l'homme se retrouve arrêté et appelle le consulat de son pays.
Alors sans aller jusqu'à cette extrémité quand même, cette histoire d'application et de consentement, yes to sex, ce que ça dit aussi quand même, c'est qu'on part d'extrêmement loin. Ça veut dire que le no is no, non veut dire non, bah, non seulement il faut le répéter, mais il avait perdu son sens, on savait plus ce que ça voulait dire dans ces endroits-là.
Oui, apparemment on savait plus ce que ça voulait dire, et parce qu'il y a aussi toute une culture, il y a une culture du viol, il y a une culture de la salope, de slot, de la fille facile qu'il faut absolument... voilà, et certaines filles rentrent dans cette culture-là. Il y a une espèce aussi entre les hommes de compétition dans la virilité. Il faut être celui qui a eu le plus...
Et qui est dans l'équipe de foot, voilà, comme les filles sont dans les cheerleaders, etc.
Et on regarde le cinéma américain, le cinéma des campus, etc. est un cinéma qui diffuse complètement cette culture-là. Donc bien sûr, il y a un problème dans le rapport au consentement, mais il y a aussi, je pense, et Tobias Wolff le dit... Un rapport presque capitaliste à la sexualité, c'est-à-dire que c'est un rapport de consommation. Il faut que je consomme une fille. Ce soir, il me faut une fille ou il me faut un garçon, d'ailleurs, parce que les filles sont entrées aussi dans ce rapport très capitaliste au sexe, avec toutes ces applications qui permettent de rencontrer des gens. Et puis là, on enregistre son consentement, etc. Et tout est réglé.
C'est marrant parce que les Américaines que vous rencontrez, alors on est dans des campus universitaires, on est avec des gens qui sont évidemment éduqués, etc. Mais on a entendu parler de la fameuse tribune à laquelle vous aviez répondu, celle de Catherine Deneuve, sur le droit d'importuner. Je trouve ça étonnant que ce soit arrivé jusque-là, en fait, jusqu'à ces campus-là, finalement.
Eh ben, elle est arrivée dans beaucoup d'endroits, parce que moi, je voyage beaucoup. Là, je reviens du Brésil. On n'a pas arrêté de m'en parler au Brésil aussi. Donc, je crois que ça a beaucoup marqué les esprits, parce que je pense que pour beaucoup de pays étrangers, c'est une sorte d'incarnation d'un esprit de contradiction à la française, une façon différente qu'auraient les Français d'envisager l'amour et d'envisager les rapports érotiques.
Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant autour de MeToo, Leïla Slimani? Est-ce qu'une relève est là? Est-ce qu'une relève est assurée? L'étape 2, l'étape bis pour ces Américaines, notamment pour nous aussi, mais pour ces Américaines, c'est quoi désormais?
Je crois que maintenant, les deux étapes les plus importantes, ça va être la mise en place de mesures concrètes comme l'égalité des salaires, s'assurer que voilà, toutes les mesures pour lesquelles elles se battent seront véritablement mises en place. Et là, elles sont face quand même à un gouvernement qui n'a pas une volonté politique immense sur ce plan-là. Donc ça va être assez, assez difficile. Donc continuer à mettre la pression. Je crois que le monde culturel aux États-Unis est un monde qui est vraiment à l'avant-garde sur ces questions-là et qui va faire qu'on ne baissera pas les bras. Et il y a aussi, bien sûr, l'élément racial. C'est ce que je disais au début. La situation des femmes américaines n'est pas la même selon que vous soyez noir, selon que vous soyez latino, selon que vous soyez sans papier. Et les pressions que vous subissez, les agressions dont vous êtes victime ne sont évidemment pas les mêmes. Donc il y a à l'intérieur de MeToo plusieurs mouvements. Et des mouvements qui parfois d'ailleurs ne s'entendent pas entre eux.
Ce qui se passe également apparemment, d'ailleurs ça fait l'objet d'un article signé par Corinne Lenne dans America, c'est que les femmes se présentent aux élections à mi-mandat, ce qui ne se serait pas forcément produit avant. Et surtout, elles se présentent, elles le disent parce que ce sont des femmes. Ce qui est quelque chose qu'on n'aurait jamais dit avant. Au contraire, d'ailleurs, on se défendait de se présenter parce qu'on était des femmes. Aujourd'hui, ce mouvement-là s'inverse.
Oui, et ça, ce qui m'a frappée, c'est que quand j'ai discuté avec des étudiantes, beaucoup m'ont dit, pour la première fois, ma mère qui est femme au foyer ou ma mère qui passe surtout son temps à s'occuper de nous, elle a dit, non, je pars à Washington et je vais aller manifester contre Trump. Donc cette envie, finalement, non seulement d'en découdre, mais de pas laisser aux autres le soin de s'occuper de notre destin. De se dire, finalement, si je veux que les choses changent, eh ben, il faut que moi, je m'engage.
Et puis ça, sortir MeToo de la sphère intime, voilà. En fait, si ça reste dans la sphère intime, au fond, ça sert à quoi?
Exactement. Et ça, j'ai vu vraiment cet engagement chez les jeunes filles et chez leurs mères.
C'est un mandat, celui de Trump, qui aura commencé sur une manif de femmes, qui se poursuit sur ce mouvement-là. Et pourtant, c'est aussi une campagne qui s'est montée en partie contre une femme. Ça aussi, est-ce que c'est pas l'énorme paradoxe que traîne ce pays, en fait?
Bien sûr, ça, j'en ai parlé aussi avec tous les écrivains que j'ai rencontrés et qui m'ont tous dit qu'ils avaient le sentiment que les États-Unis étaient un pays profondément misogyne et d'une misogynie extrêmement violentes. Ils m'ont montré toutes les caricatures dont Hillary Clinton avait été l'objet, mais des caricatures qui auraient été impossibles en France. Des choses que vous voyez à la télévision ou dans des journaux qui sont vendus à grande échelle. Enfin, pas des choses complètement extrémistes, des caricatures avec des serpents sur la tête. En plus, vraiment, qui reviennent à des choses très, très anciennes, très caricaturales. Donc, oui, c'est un pays qui est profondément misogyne et je suis persuadée, tout comme beaucoup de mes interlocuteurs, que le fait qu'elle soit une femme est ce qui fait qu'elle n'a pas été élue, que beaucoup de gens ne faisaient pas confiance à cette figure de femme.
Voilà, ce plafond de verre-là, on n'y est pas encore...
Femme qui ne tenait pas son homme, en plus. Je crois qu'il y avait cette chose horrible.
C'est Trump qui disait ça, cette phrase terrible, puisqu'elle n'a pas su retenir son homme, comment est-ce qu'elle arriverait à diriger les États-Unis. C'est à lire dans America. Leïla Slimani, merci beaucoup. Tiens, puisque je vous tiens, j'en profite. Vous avez écrit un petit texte sur Simone Veil il n'y a pas si longtemps.
Tout à fait.
Qui était paru au 1, d'ailleurs, le 1er juillet. Donc c'est dimanche prochain. Ouais. Dimanche prochain, les cendres sont transférées. Moi, je suis assez curieuse de savoir ce qu'elle aurait pensé de ce mouvement, Simone Veil. Comment elle l'aurait vécu et accompagné, selon vous?
Alors moi, je suis sûre qu'elle s'en serait réjouie. Parce que je pense que tout ce qui lui permettait de lutter contre les injustices, contre la violence qui mine les relations humaines, c'est quelque chose qui l'aurait de toute façon réjouie. Et puis je pense qu'elle aurait eu peut-être des critiques, et sans doute des critiques constructives, mais il faut en tout être capable de regarder la complexité des situations. Et puis si la parole des femmes se libère, c'est toutes les paroles qui doivent se libérer, donc c'est très bien.
Merci beaucoup Leïla Slimani. À lire dans America, l'Amérique comme on ne l'a jamais lu, on le redit, nous on adore, donc on le dit sur tous les tons, dans Un jour dans le monde, l'Amérique de Trump vue par les écrivains. Merci mille fois.
Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe au Mexique où les candidats à la présidentielle, on les tue, les cartels ont la main, vous le verrez avec le reportage d'Emmanuel Steele. Sous les radars ce soir au Malawi avec des albinos dans le bazar de Téhéran qui est en grève et dans l'espace. Mais oui, le regard écolo de Sandy Dauphin. Bonsoir Sandy.
Bonsoir.
Est-ce que l'huile de palme, la décriée huile de palme, peut vraiment être classifiée donc écolo?
Oui, peut-on la développer sans décimer les forêts et les orang-outans? Nous verrons cela avec cette certification internationale.
Et à tout à l'heure, le monde à l'envers. Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
18h55 pour vous, la guerre en Syrie continue, qui le sème?
Plus personne n'en parle, j'ai presque envie de dire tout le monde s'en fout. Et pourtant, eh bien, non seulement ça continue, mais ça s'intensifie à nouveau.
Et on verra ça ensemble dans un instant. Jack White est sur France Inter. Why walk a dog? Why does a dog need to be walked? Three birds fighting out in the yard. So why does a dog need to listen whenever you shout? These cats seem to blow everyone's mind, but mine. What is so funny about beasts above understanding? Oui, why does a dog? Moi aussi, je me pose la question. Jack White sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et sous les radars, c'est vous, Virginie Pironon. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez d'abord au Malawi, où une campagne est lancée pour alerter les dangers dont sont victimes les albinos.
L'association des personnes atteintes d'albinisme, cette anomalie génétique d'absence de pigmentation de la peau, des yeux et des cheveux, va présenter 6 candidats albinos aux élections présidentielles et législatives du Malawi l'année prochaine. Objectif, essayer de tordre le cou aux vieilles croyances, nous explique le Guardian. Au Malawi, mais aussi au Zimbabwe, au Mozambique, en Tanzanie et au Mali, où en mai une fillette de 5 ans a été décapitée. Les albinos et surtout les enfants sont traqués, tués, amputés de leurs membres. Les corps sont parfois exhumés illégalement. Leurs membres sont utilisés pour des rituels censés apporter richesse et chance. Annie est une petite fille de 10 ans. Elle témoigne dans le cadre d'une campagne d'Amnesty International. Les gens m'appellent le fantôme. Ils m'appellent l'homme blanc. Parce que je suis albinos. Mais je suis juste comme n'importe qui. C'est simplement parce que j'ai la peau blanche et les cheveux blancs. Mais certains pensent que mes os, que mes cheveux ont des pouvoirs magiques qui leur donneront argent et pouvoir. Et je sais qu'ils feront tout pour les avoir. Au Malawi, les albinos sont 7 à 10 000 et c'est comme s'ils étaient déjà tous condamnés à mort. Ces 4 dernières années, 22 meurtres ont été recensés, mais il y aurait des dizaines de disparus.
En Iran, hier, le grand bazar de Téhéran était en grève.
Très rare mouvement des commerçants, traditionnellement conservateurs. Ils avaient soutenu la révolution islamique de 79. Ils n'hésitent pas à user de leur influence quand leurs intérêts sont menacés. Dans leur collimateur, la baisse de la monnaie, le rial, qui s'est accélérée depuis l'annonce en mai du retrait américain de l'accord sur le nucléaire, avec un renforcement des sanctions économiques. Du coup, hier, au grand bazar, c'était ça. Des commerçants en colère qui ont défilé dans les allées du bazar avant de plier totalement boutique. Ils demandent que la situation du marché des changes soit clarifiée une fois pour toutes. Dans l'après-midi, de brèves échauffourées ont opposé quelques dizaines de jeunes aux forces de l'ordre dans le centre de la capitale. En Iran, la chute de la monnaie affecte tous les secteurs de l'économie. En 6 mois, le rial a perdu la moitié de sa valeur.
Virginie, vous nous emmenez maintenant loin, très loin, très très loin de ces bisbilles terrestres, Asgardia. Asgardia, l'autoproclamée première nation de l'espace, vous nous apprenez de ces trucs, vous,
oui, c'est
intronisé hier son président.
Et ce n'est pas une blague, Fabienne. L'idée de créer Asgardia, nation spatiale, a germé il y a 2 ans dans la tête d'un ancien homme d'affaires russe. Asgardia, référence à une cité de la mythologie nordique, se définit comme pacifique, indépendante et ouverte à tous. Elle promet à ses futurs citoyens de mettre en orbite un état où ils pourront vivre en paix et en harmonie.
The constitution of the first space state Asgardia in the history of mankind.
Pour son intronisation, le fondateur d'Asgardia n'a rien laissé au hasard. Visage rond, cheveux blancs, moustache et nœud papillon doré, Igor Ashkourbeli a donc prêté serment sur Terre, à Vienne, dans l'ancien palais impérial du Hofburg, devant 200 personnes.
Сегодня духу и букве Конституции Асгардии и являться гарантом ее соблюдения.
Igor Ashkourbeli, qui veut remplacer la géopolitique par la politique de l'espace. Au passage, il souhaite aussi coloniser la Lune d'ici 25 ans.
On en a connu d'autres qui voulaient faire ça.
Cette nouvelle nation d'Asgardiens compterait déjà plus de 200 000 citoyens. Fabienne, vous pourriez peut-être y réfléchir.
Bien sûr.
Aux États-Unis, en Turquie, en Russie, en Espagne ou encore en France.
Ah, parce qu'ils ont un hymne.
C'est l'hymne asgardien.
Ok.
Une constitution, un parlement et maintenant un président.
Eh bien, vous nous voyez bien contente. Tout cela vient de l'espace. Merci beaucoup, Virginie Pironon.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
C'est au Mexique que nous emmène l'escale reportage Un jour dans le monde ce soir, au Mexique, où un nouveau candidat aux élections présidentielles et municipales qui ont lieu dimanche a été tué. Hier, le croyez-vous, plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort depuis le début de cette campagne, candidat à la présidence ou donc au municipal. Bonsoir Emmanuel Steele.
Bonsoir Fabienne.
Ce qu'on entend derrière nous, ce sont les supporters d'Andrés Manuel López Obrador, grand favori du scrutin. Il est dans l'état du Guerrero, c'est l'une des régions les plus violentes du Mexique, Emmanuel, une terre de narcos. Et grâce à vous, on va comprendre l'ambiance de terreur qui règne dans cette région à cause des cartels. Et c'est pour ça que López Obrador voulait s'y rendre. On écoute votre reportage.
Obrador, les gens scandent le deuxième nom de famille du favori à la présidentielle. Obrador qui signifie « celui qui agit ». Dans l'état du Guerrero, sa promesse de transformer le Mexique génère des espoirs considérables. Tous les enjeux qu'il a définis comme des priorités durant sa campagne se matérialisent ici. La corruption, la pauvreté et bien sûr la violence. Dans tous les villages de la Sierra, c'est le même scénario. Les gens font descendre López Obrador de sa voiture pour l'embrasser, lui parler. « Nous allons gagner », nous disent les habitants dès qu'ils voient un micro. Sa victoire, ce sera leur victoire s'il œuvre pour la paix comme il l'a promis.
Je voulais venir ici parce que vous souffrez d'une telle violence. Alors je veux me montrer à vos côtés, ici, à Chilapa.
Chilapa, 100 000 habitants et plus de 200 homicides par an. Aucun autre candidat n'est venu se présenter dans cette ville. Marco Antonio Miranda est le dirigeant local de Morena, le parti de López Obrador. Il parle de la peur de s'engager en politique dans cette région.
Et pour ça, c'est quasi. Il y a une question héroïque à ce que nos compagnons, protagonistes du changement véritable, sont en train de faire.
Elle est presque héroïque, cette campagne que font nos candidats. C'est une campagne pour changer le pays. La peur existera toujours, mais si nous ne surmontons pas cette peur, nous allons gâcher tout ce qui est en train de s'accomplir. Nous pouvons avoir peur, mais au moins nous savons que nous travaillons pour notre tranquillité et plus tard, nos enfants pourront nous dire « Vous avez lutté pour que notre pays soit meilleur ».
Une nation meilleure comme la que vous avez trouvée.
Dans le Guerrero, plus que n'importe où au Mexique, c'est l'hécatombe. Une trentaine d'élus et de candidats assassinés, des dizaines d'abandons et l'impuissance des électeurs qui assistent à l'intervention des cartels dans la campagne. Omar Jalil Flores, il est le maire de Taxco, l'une des villes les plus touristiques du Mexique, dans une zone disputée par les narcotrafiquants. Et la musique entraînante qui accompagne ces meetings contraste avec l'atmosphère de sa campagne. Il a reçu toute une variété de menaces de mort.
Estas son las partes de las amenazas que nos llegan. Tuve el caso específico de colaboradores míos.
Ça, c'est le genre de message de menace que je reçois. Dans le cas de certains de mes collaborateurs, on a tiré des coups de feu devant chez eux. Puis on m'appelle pour me dire que moi et mon équipe sommes surveillés. Aujourd'hui, le crime organisé veut gagner des espaces au sein des gouvernements locaux pour avoir accès aux finances, avoir leurs représentants et influencer la politique.
Y que quieren tener esa representación. Ya yo tuve la oportunidad.
J'ai été député fédéral, député local et maire, et pourtant je n'avais jamais vécu une campagne pareille. C'est complètement hors norme.
Y sin duda nunca había tenido una dinámica como la de ahorita. Es completamente fuera de lo normal.
Deux jours avant cette interview, un cartel annonçait l'exécution imminente du candidat. Le gouvernement du Guerrero lui a envoyé des gardes du corps en renfort. Mais le lendemain, deux collaboratrices d'Omar Jalil Flores ont été kidnappées pendant plusieurs jours. Dans ce panorama, au Guerrero, il y a un personnage atypique qui a beaucoup fait parler de lui. C'est l'évêque de Chilpancingo, Salvador Rangel. Il intercède auprès des cartels pour freiner la violence. Sous ses airs sévères, il parle de sa mission avec un sourire confiant.
Pourquoi je fais cela ? Pour éviter des morts, des enlèvements, pour éviter qu'on fasse disparaître des gens. Les politiciens ne sont pas d'accord avec moi, bien sûr. Ils disent toujours qu'on ne peut pas négocier avec la loi. Et je suis d'accord. Mais ils s'offusquent parce que j'ai des contacts avec ces groupes. Ils n'apprécient pas les critiques que je formule publiquement. Mais j'ai mon point de vue à moi. Et je crois qu'il faut faire tout ce qui est possible pour obtenir la paix.
Pero yo también tengo mi punto de vista y como yo digo, vale la pena hacer cualquier cosa para lograr la paz.
Hoy que regreso para el sur, quiero cantarle a Guerrero.
Dans la Sierra de Guerrero, les habitants voient d'un bon œil l'action de l'évêque et la proposition de López Obrador d'amnistier les personnes impliquées dans le narcotrafic par nécessité, des jeunes embrigadés par les cartels ou des paysans qui cultivent le pavot à opium. Alejandra, originaire d'un village reculé, pense que les décideurs politiques devraient venir au Guerrero et comprendre comment vivent les gens dans la peur, en tenaille entre le crime organisé et la pauvreté, obligés parfois de prendre eux-mêmes les armes pour se défendre.
Emmanuel Stills pour le reportage, merci beaucoup. On y reviendra au Mexique dans Un jour dans le monde et cette campagne de fou demain d'ailleurs avec un invité autour de ces élections-là, avec Olivier Poujade aussi, l'envoyé spécial de France Inter qui s'y est installé pour un temps. Merci beaucoup, beaucoup à dire donc et rendez-vous est pris.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Et le mardi d'un jour dans le monde, Sandy Dauphin refroidit et reverdit la planète. Sandy, ce soir, cette huile de palme d'ailleurs, alors, voilà, ça je voulais dire, satanée huile de palme, voilà un sujet qui déchaîne les passions. La demande mondiale est toujours plus importante pour l'industrie alimentaire et pour les biocarburants. Mais l'exploitation, on le sait, est accusée de tous les maux, déforestation, accaparement des terres, violation des droits de l'homme. Alors, question, est-ce que l'huile de palme peut vraiment être vertueuse? Est-ce qu'elle peut être durable? Est-ce qu'elle peut être écolo?
Depuis 2004, il existe une certification internationale pour une filière de palmiers à huile dite durable. Alors l'organisme qui délivre ce tampon, le RSPO, tient sa réunion annuelle à Paris aujourd'hui. Les planteurs doivent respecter un cahier des charges avec des critères environnementaux et sociaux. Parmi les adhérents, le groupe CIPEF, une société belge de plantation de palmiers à huile, le directeur commercial de sa filiale indonésienne, Olivier Tichit.
On est une très vieille société et c'est une bonne opportunité de se remettre un petit peu en cause d'une certaine façon. On peut dire, nous, par exemple, on met la main sur le cœur, on peut dire nous avons bien travaillé, nous traitons bien nos employés, nous faisons le maximum pour ne pas avoir de conflit avec la communauté locale, pour, si nous acquérons des droits du sol, de le faire de manière honnête, transparente, être certifié, c'est une façon de démontrer nos pratiques. De dire, oui, nous pensons que nous travaillons bien et nous vous le montrons puisque nous pouvons être certifiés RSPO, ce qui est vraiment pas facile.
Donc la main sur le cœur, hein, Sandy, on a bien compris, mais cette certification durable, aujourd'hui, elle concerne une petite partie seulement de la production mondiale d'huile de palme, non ?
Oui, seul 20% de la production mondiale est certifiée durable. Alain Rival travaille en Indonésie pour le CIRAD, c'est un institut public dédié au développement agricole dans les pays tropicaux. Et il nous explique que beaucoup de petits producteurs d'huile de palme n'ont pas intérêt à être certifiés.
C'est un procédé coûteux, donc c'est de fait inaccessible aux petits planteurs. Donc on a quand même entre 40 et 50% de la production mondiale qui est liée aux petits planteurs. Dans certains pays, c'est 80%, hein, comme le Ghana ou le Costa Rica. Donc dans ces pays-là, convaincre les petits planteurs de passer à des pratiques certifiées ou certifiables, c'est un travail de très très longue haleine. Il faut bien se dire aussi qu'un des défauts de RSPO, c'est qu'elle n'offre pas de rétribution, de récompense directe aux planteurs qui suivent ce procédé de certification.
Donc si j'ai bien compris, ce sont des ONG qui disent carrément que ça sert à rien cette certification finalement, c'est qu'autère sur une jambe de bois.
L'ONG Les Amis de la Terre souligne que cette certification RSPO n'empêche pas la déforestation en ce moment en Indonésie et en Malaisie, les deux principaux producteurs d'huile de palme. Sylvain Angereau des Amis de la Terre.
Les certifications, c'est vraiment une façon de dire circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Et de surtout pas questionner pourquoi on consomme autant d'huile de palme aujourd'hui. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a besoin de faire, c'est qu'on l'a fait sur l'alimentaire. On a diminué quasiment par deux notre consommation d'huile de palme dans l'alimentaire, mais en même temps, elle a explosé dans les carburants. Aujourd'hui, 75% de l'huile de palme que l'on consomme en France, c'est dans les carburants pour les voitures.
L'autre frein, eh bien, l'organisme de certification n'a aucun pouvoir de police. Greenpeace vient d'ailleurs de prendre la main dans le sac, le premier négociant mondial d'huile de palme. L'ONG a démontré que le géant Wilmart avait encore une responsabilité dans la destruction de la forêt indonésienne, malgré sa promesse de zéro déforestation.
Mais donc la solution, c'est quoi ? On boycotte l'huile de palme ? C'est ça l'idée ?
Eh bien, c'est pas sûr que ce soit efficace non plus, parce que d'une part, le marché mondial de l'huile de palme n'est pas dominé par l'Europe, où l'opinion publique est de plus en plus sensible à la provenance des produits consommés, mais il est dominé par la Chine, l'Inde, le Pakistan, où ces considérations ne sont pas encore des priorités. Mais surtout, le risque, c'est de déplacer le problème. Les alternatives à l'huile de palme ne sont pas forcément meilleures pour l'environnement, explique Stefano Savi de l'organisme qui certifie l'huile de palme durable.
Depuis le début de la certification RSPO, nous avons préservé l'équivalent de 200 000 terrains de foot de forêt. D'accord, c'est insuffisant. Mais ça prouve que ça peut fonctionner. Il faut bien comprendre. C'est quoi l'alternative ? Que va-t-on utiliser à la place ? Est-ce que la production d'autres huiles respecte davantage les critères de développement durable ? Ce sont de bonnes questions à se poser.
Ouais, autrement dit, déforester l'Amazonie pour produire de l'huile de soja, est-ce que c'est mieux ?
Voilà, moi je retiens en tout cas un chiffre dans ce que vous nous avez dit, Sandy. 75% de l'huile de palme, ce sont les carburants.
Oui, et les biocarburants.
Exactement, quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Merci mille fois.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Et le monde à l'envers de Jean-Marc Four. On est tellement omnibulé, Jean-Marc, par la crise des migrants, alors à juste titre certes, mais par l'imprévisibilité aussi de Donald Trump, qu'on en oublie le Proche-Orient et qu'on en oublie en particulier la Syrie. On en viendrait presque à croire que la guerre est terminée en Syrie. Et vous, dans votre monde à l'envers, vous dites attention, elle continue, elle a même pris depuis 48 heures une énorme ampleur.
Comment ça ? La guerre continue en Syrie ? On nous aurait menti ? Ben c'est vrai, hein, quasiment plus personne n'en parle. Et pourtant, que se passe-t-il sur le terrain ? Eh bien, depuis samedi soir, les troupes d'Assad ont lancé une offensive majeure dans le sud du pays avec l'appui de l'aviation russe. 40 000 hommes engagés, déjà des dizaines de victimes. C'est impossible de connaître le bilan exact. Alors vous allez me dire, ce n'est jamais qu'une offensive de plus en Syrie. C'est vrai, sauf que la cible est une ville symbole, c'est Deraa. Deraa, c'est là où tout a commencé. Le 15 mars 2011, après l'arrestation et la torture de plusieurs enfants, la première manifestation contre Assad, celle qui a déclenché la révolte. Et aujourd'hui, le nord de la ville semble presque encerclé par l'armée loyaliste. Déjà, en 48 heures, 45 000 personnes ont pris les routes de l'exil, estimation officielle de l'ONU pour le coup. 10 villages se sont déjà totalement vidés de leur population. Et ce n'est qu'un début, la région compte 750 000 habitants. Alors ce coup-ci, vous allez me dire, ce n'est jamais qu'un exode de plus. Regardons où vont aller ces exilés. Ils vont d'abord essayer de se rendre en Jordanie, la frontière n'est qu'à 8 km. Sauf que la Jordanie croule sous les réfugiés. Son gouvernement dit « stop, on peut plus ». Ils vont peut-être essayer de se rendre en Israël. Le plateau du Golan n'est pas très loin non plus, c'est à une quarantaine de kilomètres. Mais Israël ne va pas nécessairement les laisser rentrer. Donc voilà des dizaines de milliers de personnes condamnées soit à mourir, soit à chercher et à fuir. Vers où ? Je vous le donne en mille, vers l'Europe. Donc oui, ça nous concerne. Alors ensuite, vous allez peut-être me dire, enfin, je ne comprends pas,
que je vous dis.
Les Occidentaux, les Français, les Américains, les Britanniques, qui sont quand même intervenus militairement à la mi-avril pour que tout ça cesse.
Bon, alors donc je vous le dis, effectivement, est-ce que tout ça n'a servi à rien ?
Eh bien, pas à grand-chose. L'objectif, c'était que Assad cesse d'utiliser ses armes chimiques. C'est vrai, il a cessé. Pour le moment. Mais dans cette offensive sur Deraa, il continue quand même d'utiliser des barils d'explosifs largués comme des bombes. Vous savez, c'est guère mieux.
Comme d'habitude.
Et surtout, les États-Unis ont manifestement laissé tomber les rebelles de Deraa. Il y a 6 mois encore, ils les soutenaient financièrement. C'est fini. Ça coûte trop cher, estime le Pentagone. Il y a 10 jours encore, ils les assuraient de leur soutien militaire en cas d'opération russo-syrienne. Il y a 10 jours. Samedi dernier, patatras. L'ambassade des États-Unis en Jordanie leur a dit « Débrouillez-vous sans nous. Si vous êtes attaqués, vous faites tout seul. » Ça n'a pas traîné. Quelques heures après, les tirs de missiles russes commençaient. Donc vous avez bien compris, ça veut dire que Washington a décidé de laisser faire Moscou. Dans cette partie de la Syrie, c'est la fin d'un statu quo, d'une relative accalmie qui durait depuis près d'un an. Assad et son allié russe ont le champ libre désormais pour achever leur reconquête de l'ensemble de la partie ouest de la Syrie, c'est-à-dire environ les 2/3 du territoire. Notons au passage qu'ils en profitent pour déplacer des populations afin que le nombre des sunnites diminue au profit des chiites. Rappelons que le pouvoir d'Assad est alawite, donc une branche du chiisme. Problème dans le sud du pays, où nous nous trouvons là avec Deraa, il y a des risques majeurs. La déstabilisation de la Jordanie dont on vient de parler, c'est la seule zone tampon de la région, si vous voulez, voire l'entrée en guerre d'Israël. si des troupes iraniennes devaient être engagées dans l'opération d'Assad. Donc à nouveau, on joue avec les allumettes.
On peut pas jouer avec le feu et les mauvais joueurs. Alors il y a quand même une évolution positive, on va dire, c'est la disparition du groupe État islamique. Mais là aussi, je sens que vous allez me dire, pas du tout.
Oui, vous lisez dans mes pensées, là encore, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas davantage terminé. Cette fois, ça se passe à l'autre bout du pays, à l'est, dans la région de Deir ez-Zor et de Mayadin. Il y a un mois, des centaines de terroristes du groupe État islamique, armés de mitrailleuses lourdes, ont lancé des raids en Syrie contre les troupes syriennes et les troupes russes. 76 morts. Près de 2500 islamistes radicaux seraient encore dissimulés dans cette zone qui est rurale, désertique, près de la frontière avec l'Irak. On dit que le chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, se cacherait également dans cette région. Ces dernières semaines, les Occidentaux ont multiplié les attaques de drones pour éliminer ces islamistes, sans succès réel. Et soit dit en passant, Assad a sans doute intérêt à ce que subsistent de telles poches terroristes, parce que ce sont autant d'alibis pour poursuivre l'éradication de ses opposants. Donc on se résume, 7 ans de guerre en Syrie, 350 000 morts, 10 millions de déplacés, ça serait évidemment plus confortable de penser que c'est terminé, mais... ça ne l'est pas.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne juste après le journal de Pierre Veuille. Merci de passer la soirée avec nous.